Ce soir, je voudrais vous parler d'un ou deux versets qui ont attiré mon attention dernièrement. Comme ça arrive parfois, on a l'impression de lire un verset pour la première fois parce que des fois, il y a des détails qu'on rate. Et nous allons lire deux versets, deux ou trois versets dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 23. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 23. Donc Paul a écrit ceci à l'Église. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout vous appartient, mais vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. Déjà, alors c'est une traduction, je crois que c'est la Nouvelle Bible Second 21, cette traduction. Ben, dans d'autres traductions second, plus anciennes, il est parlé de pas tirer de gloire dans des hommes, de pas se glorifier dans des hommes. Et là, c'est traduit par le mot fierté. Le mot fierté, là, ça parle de se glorifier, donc, avec ou sans raison, se vanter. C'est tirer gloire de quelque chose. Mais ça sous-entend aussi de mettre sa confiance dans la nature humaine. Donc on sait que les Corinthiens traversaient des divisions, ils n'étaient pas d'accord sur plein de sujets, et ça se focalisait ou ça se manifestait par une façon qu'ils avaient de se juger les uns les autres et de s'apostropher en fonction des, entre guillemets, des maîtres qu'ils avaient. C'est-à-dire que certains se targuaient d'avoir été enseignés par l'apôtre Paul, d'autres étaient fiers d'avoir été enseignés par Apollos, d'autres par Céphas, donc c'est l'apôtre Pierre. Et ces divisions, donc, avaient, ces groupes avaient comme un logo, c'est le logo Paul, le logo Apollos, le logo Pierre. Alors c'est intéressant parce que, comme toujours dans la vie chrétienne, des choses qui peuvent être bonnes dans un premier temps, lorsqu'elles se sont appropriées par la chair, ça devient quelque chose de mauvais. Mais ça ne veut pas dire que la chose initiale est mauvaise. En d'autres termes, être en tant que chrétien disciple de Jésus-Christ, ça sous-entend aussi d'être disciple des dons, des personnes qui sont des dons à l'Église pour former le caractère pieux dans la vie d'un individu au travers de l'enseignement. Et donc, à la fois, on doit suivre Christ et lui seul, mais Christ va utiliser des êtres, peu importe, je dirais, leur état par... C'est-à-dire, c'est des êtres différents. Paul était différent d'Apollos, Pierre était différent de Paul. Mais donc Dieu va mandater certaines personnes pour enseigner le peuple de Dieu. Donc il est important d'avoir, d'une certaine manière, des maîtres, des personnes qui sont des références dans la parole de Dieu, en qui nous pouvons avoir confiance. Alors après, au niveau, je dirais, du pastorat et de la conduite spirituelle d'une âme, vous pouvez ne pas être un enseignant et en même temps pouvoir conseiller les gens. Vous pouvez avoir une sagesse, vous pouvez avoir de l'expérience, de l'humilité, et donc Dieu peut utiliser, je dirais, beaucoup de croyants en dehors du cercle strict des enseignants dans l'Église. Il est important que les enseignants soient quand même des conducteurs spirituels, mais vous pouvez aussi être un conducteur spirituel sans être un maître dans la parole. Par exemple, dans la famille, les parents sont des maîtres pour leurs enfants. Ce sont les parents qui éduquent leurs enfants dans la piété. Ils expliquent la Bible, ils font grandir la foi de leurs enfants au travers du ministère de la parole de Dieu. Donc, d'une certaine manière, on est tous, d'une manière ou d'une autre, des petits bergers. Mais là, il s'agissait de ceux qui enseignaient la doctrine, qui était en plus toute nouvelle. Et donc, certains se glorifiaient d'être sous l'autorité ou sous l'enseignement de telle ou telle personne. Et c'est intéressant parce que ça peut arriver d'ailleurs quand on vit un peu dans l'insécurité, on essaye d'avoir de la valeur et comme on ne la trouve pas, cette valeur en soi, on est fier d'être attaché à la valeur de quelqu'un d'autre. Et donc on se lie à quelqu'un d'une certaine manière pour justifier sa propre vie. On voit ça partout, au travers des médias, de l'art, ou dans tous les domaines, le business aussi, hein, dans les entreprises. Mais parfois, vous avez des gens qui vénèrent quelqu'un parce qu'ils sont fiers d'avoir une relation particulière avec cette personne. Elle a des qualités ou des dons que d'autres n'ont pas, et donc on s'approprie la personne et on se glorifie de connaître cette personne. C'est intéressant de voir, par exemple, je prends un exemple tout bête. Imaginons que je connaisse mon voisin et que le courant passe bien, je l'invite à prendre un café et donc on a des bonnes relations. Là, je parle de quelqu'un, si j'étais charnel, comme je suis jamais, ça m'arrivera jamais, mais imaginons. Et donc, imaginons que je connais ce voisin, mais je ne vais pas forcément vous en parler. Pourquoi? Parce que c'est un voisin, voilà, il n'y a pas plus à dire. Mais si ce voisin, je ne sais pas moi, c'est un ministre, ou un chanteur, ou un écrivain célèbre, et que je commence à prendre un café, parce qu'en tant que voisin, on s'apprécie. Je serais peut-être tenté de vous dire j'ai un voisin, c'est super, on passe du bon temps ensemble. Alors, on a le droit de raconter, si c'est vrai et que les choses se passent, on a le droit d'en parler à d'autres peut-être, mais je pars de l'attitude de cœur qu'on a parfois, c'est qu'on est fier de connaître quelqu'un comme si ça nous donnait à nous plus de valeur. Alors qu'en réalité, c'est un être humain qui a peut-être des qualités. Alors, on peut être fier peut-être que cette personne qui a, je prends l'exemple d'un ministre qui a d'autres choses à faire, aime prendre du temps avec nous pour prendre un café, c'est édifiant, bien entendu. D'accord, on peut être fier de cela, mais de manière modérée. Mais de croire que ça va ajouter à notre propre vie, sous prétexte que cette personne a une certaine étiquette, c'est se leurrer complètement. Parce que pour mon âme, je peux très bien avoir un voisin complètement ordinaire, selon les yeux de ce monde et de cette société, et pourtant être enrichi. Je dirais pas que spirituellement, mais simplement avoir une bonne amitié. Et donc, en d'autres termes, essayons de fonctionner comme le Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur, il regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Alors, vous pouvez avoir des gens très connus qui ont un cœur super, tant mieux, mais ça ne justifie pas le fait que nous, on soit meilleurs, du coup, parce qu'on connaît des gens importants. Et pourtant, c'est ce qu'on a tendance à faire. C'est, vous savez, je suis dans les petits papiers de quelqu'un. Et c'est exactement ce qui se passait dans l'église de Corinthe. C'est-à-dire que ça peut se passer aussi dans l'église. Moi je suis de Paul. Oui, non, mais moi je connais l'apôtre Pierre. Et c'est celui qui a les clés du royaume de Dieu. L'autre dit, mais c'est Paul, tu te rends compte, cette personne enseignée dans les Écritures par les zélés juifs et pharisiens qui ensuite s'est converti, moi je le connais. Donc tout le monde pouvait quelque part s'apostropher en justifiant leur vie en fonction du maître qu'ils avaient. Et Paul, il dit, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, je commenterai peut-être un peu plus ça, mais maintenant j'aimerais parler d'un autre, de la suite de ce qui est dit. Et là, je trouve ça très étonnant, l'enchaînement des idées de l'apôtre Paul. C'est qu'il dit, je préciserai aussi quand il parle du fait que tout nous appartient. Au verset 22, regardez ça, il dit, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Et puis il enchaîne, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Quel rapport? Je veux dire, on parle d'individus et d'un seul coup, il bascule et ça devient quelque chose de complètement métaphysique. D'accord? On rentre là dans des hautes sphères. Et l'apôtre Paul, pourquoi il fait ça? Pour nous montrer qu'on doit avoir une vue bien plus haute de l'existence. D'abord, on doit voir les choses différemment, mais aussi on doit les voir avec de la hauteur. Et donc la question qu'il pose et les réponses qu'il donne, c'est de quoi doit-on être fier? Est-ce que je suis fier de connaître quelqu'un? Mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire, est-ce que je me glorifie parce que je connais quelqu'un? Est-ce que je cherche à justifier ma propre gloire en fonction de la personne que je connais? Il dit là, mais c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Et c'est très intéressant parce que n'oublions pas que d'une façon plus générale, c'est sous-jacent, il traite le problème d'une division dans l'Église. Alors il y a des péchés en plus, ça c'est un autre sujet, mais le premier sujet qu'il traite, c'est pour ça que c'est que sur les 16 chapitres de cet épître, c'est au chapitre 3 que ce sujet apparaît, parce que Paul veut vraiment traiter le problème de la division. Et il est en train de dire, mais vous, le discours que vous tenez, qui consiste à dire « je ne suis pas avec toi parce qu'on n'a pas le même maître », Et on sait que dans l'Église, on a tous vécu ça nous-mêmes, constaté ça. Il y a des querelles de chapelle. Je suis de telle dénomination, je suis de telle église. Même dans une même dénomination, il peut y avoir des fois des compétitions entre églises. Ah ben, dans mon église, on fait ça. On a le droit de témoigner, bien entendu, on a le droit de s'édifier et de donner des idées aux autres, mais ça ne fait pas de nous des gens plus glorieux sous prétexte qu'on vit quelque chose en admettant de mieux. Même si c'est mieux, ça ne nous rend pas plus glorieux. Et pourquoi ça ne nous rend pas plus glorieux? Parce que Paul dit, mais vous avez tout déjà. C'est-à-dire que vous vous trompez de combat, vous avez une mauvaise compréhension de la situation et de votre position qui est la vôtre. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « car tout vous appartient », fin du verset 21, « car tout vous appartient, Paul, Apollos, etc. » Alors, faut bien comprendre dans quel sens il le dit. Ça ne veut pas dire que les Corinthiens devaient donner des ordres à Paul, à Apollos ou à Céphas, et que eux n'avaient pas leur libre arbitre non plus. Mais il est en train de dire que Paul, Apollos, Céphas et d'autres ont été donnés par Christ à l'Église. C'est dans ce sens-là, rappelez-vous, dans Éphésiens, quand il est dit « Dieu a donné des dons à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, prophètes, etc., pasteurs, enseignants. » Donc en fait, pour être très clair, je vous appartiens. Ça ne veut pas dire que je suis assujetti à vous, mais je vous appartiens dans le sens où vous, et c'est le verbe que je vais utiliser des fois péjoratif, mais là il est positif dans ma bouche, vous devez profiter de moi. D'accord? C'est à votre avantage, ça vous appartient. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de... en admettons que, je sais pas, on soit plusieurs enseignants, nous avons Achille, on peut avoir pasteur Jean-Paul, il n'y a pas à dire, bah tiens, je préfère l'un, je préfère l'autre, et puis si j'ai celui-là, ça veut dire que suis plus spirituel que toi. Non, en fait... Pasteur Jean-Paul, Achille ou d'autres, Eric, tous ceux qui prêchent dans l'Église, moi-même, nous vous appartenons, d'accord? C'est pour vous que les choses se font. C'est-à-dire que vous pouvez profiter de tout le monde. Paul appartenait à l'Église, tout comme Apollos, tout comme à Céphas, et les Corinthiens n'avaient pas à se diviser, ils avaient à tout prendre, d'accord? Ils n'avaient pas à rechercher. Et quand je dis tout prendre, c'est pour pouvoir progresser spirituellement et non pas essayer de se glorifier, de justifier leur propre vie sous prétexte qu'ils ont un maître particulier dans l'Église qui est un tel ou un tel. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Paul est en train de dire qu'en réalité Dieu nous a tout donné et quand il nous donne tout, il nous donne une église, par exemple, une église locale, il nous donne des enseignants, il nous donne des frères et sœurs et ça nous appartient. Et à partir de là, à partir du moment où on comprend que ça nous appartient dans le bon sens du terme, évidemment, encore une fois, c'est pas pour tirer un profit égoïste, mais quand on sait que c'est pour nous, eh ben on en profite sans essayer d'avoir encore plus, puisque de toute façon, on a tout. Et c'est pour ça qu'il met ensuite dans la liste des choses qui ont apparemment rien à voir. C'est-à-dire qu'il dit, mais car tout vous appartient, Paul, Apollos, Céphas, puis il ajoute le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout vous appartient, mais vous appartenez à Christ. C'est-à-dire que Dieu nous a, par Jésus-Christ, nous a donné un héritage extraordinaire par Christ, et on va redétailler ça tout à l'heure. Et à partir du moment où on commence à comprendre ce que nous avons reçu, on n'a plus besoin de se battre après pour essayer de se glorifier dans quelque chose. La seule chose dont je peux me glorifier, c'est de me glorifier en Christ. Je suis fier de ce que j'ai reçu en Christ. Je ne suis pas fier de moi. Je suis fier du cadeau que Dieu m'a fait. Vous savez, c'est un peu comme... imaginons que là... on va prendre des enfants dans une cour de récréation. Il y en a un qui a un billet de 500 euros, l'autre a un billet de 200 euros, l'autre a un billet de 100 euros. Et ils sont là à se disputer en disant « Ah, moi j'ai un billet plus gros que le tien, etc. Je suis plus riche. » Mais en réalité, les trois ont des parents milliardaires. Ça sert à rien de se battre pour savoir qui a le billet le plus important, puisque de toute façon, il y a des richesses bien supérieures à ça qui sont les leurs et qu'ils ont tous les trois. Donc au bout d'un moment, si vous dites à un enfant ou à un ado, parce qu'un enfant à l'école primaire, il n'a peut-être pas ses billets dans sa poche, mais si vous allez voir à un jeune et vous lui dites « mais tu sais, t'as pas que 500 euros, t'es milliardaire. Au deuxième, t'as pas que 200 euros, t'es milliardaire. Et au troisième, et ainsi de suite. » Au bout d'un moment, ils vont plus se disputer puisqu'ils sont tous riches. Il se trouve que momentanément, chacun a des billets différents dans la poche, mais au niveau de leur héritage et de les richesses qu'ils ont en réserve, qui sont en réserve pour eux, ils sont riches tous les trois, et donc ils n'ont plus à se battre. Ben, c'est exactement la même chose avec les Corinthiens, c'est que tout leur appartenait. Dieu n'avait pas dit, bah tiens, je vais donner un enseignant pas trop mal, Apollos, à un groupe. Et puis à Paul, je vais donner à d'autres, je vais donner Paul, et puis au troisième, je vais donner Céphas. Et puis on va voir ce qui va se passer. Ben là, évidemment, au bout d'un moment, il y a la discorde parce que l'un pense qu'il a un héritage plus important que l'autre. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de ça. C'est que ces trois hommes ont été donnés à l'Église tout entière, l'Église universelle, mais aussi à l'Église locale, notamment de Corinthe. À un moment donné, ils ont dû chacun à leur tour passer dans cette Église. Et c'est pour ça que l'apôtre amène une hauteur de vue et il prend leur discours et le retourne. Eux se disaient « je suis d'un tel, je suis d'un tel et je suis d'un tel ». Bah, Paul dit « je reprends ces exemples-là et moi ce que je vous dis, c'est qu'ils vous appartiennent de toute manière. Et ils vous appartiennent à tous ». Donc arrêtez de vous battre. Et d'ailleurs, on peut transposer ça concernant les dons dans l'Église, par exemple. Je peux des fois être jaloux parce que quelqu'un a plus de dons, plus de place dans l'Église. J'aurais aimé faire ceci, faire cela, et puis il se trouve que, ben voilà, j'ai peut-être pas ce don-là ou cette aptitude, ou j'en ai pas le temps, j'en sais rien. Mais à un moment donné, on doit tous réaliser que les dons qui sont, là je parle d'une église locale, qui sont dans une église locale, se profitent à tous en réalité. C'est-à-dire que le don de service de l'un, il m'appartient. Le don d'enseignant de l'un m'appartient. Le don de louange, de chantre de l'autre m'appartient aussi. Tout est à nous en réalité. C'est-à-dire que ce don-là, Marie-Hélène, elle chante pas que pour un groupe de l'église. Moi, j'enseigne pas que pour un groupe de l'église. Et lorsque Pasteur Jean-Paul donne une introduction, et alors que c'est pas moi qui parle, je reçois aussi ah mince, j'avais pas trouvé cette idée. Oh, je suis nul, j'aurais dû y penser. Ben non, je reçois, tout est à moi. Dieu me l'a donné. Eh ben, j'ai qu'à le prendre. Et j'ai pas à me culpabiliser en disant, ah, c'est bête, j'aurais dû avoir cette idée-là, et c'est moi qui aurais dû la communiquer à l'Église. Il n'y a plus de comparaison possible. Pourquoi? Parce que tout est à nous. Et donc, on profite, si vous voulez, mais dans le bon sens du terme. Et Paul est en train de leur dire, c'est sous-jacent, vous êtes en train de vous disputer, alors qu'en réalité, vous avez hérité de tout. Et c'est pour ça qu'il va insister après en disant, mais non seulement ces trois hommes-là, entre autres, vous appartiennent, mais le monde, la vie, la mort, le présent et l'avenir, tout vous appartient. Vous avez tout reçu en Jésus-Christ, arrêtez de vous battre. Et c'est intéressant parce que c'est pas exactement le sujet, mais je pensais à l'attitude, vous savez, des enfants dans la parabole de Luc 15, les deux fils, le fils prodigue et le fils aîné qui reste à la maison. On s'aperçoit, toujours en restant sur le sujet de ce soir, et en voyant cet épisode au travers de ce prisme, que ces deux enfants, ces deux fils, n'avaient pas compris que tout leur appartenait. C'est-à-dire que le fils prodigue qui a voulu, alors il y a la notion de péché, de convoitise, mais imaginons que cet enfant ait été intelligent. Il recherchait l'amour, mais il l'avait dans la maison de son père, l'amour. Il recherchait une autre vie, alors que quelque part il y avait un appel déjà dans la famille, dans cette ferme. Il avait déjà une vie tout tracée qui était formidable. Il voulait le plaisir sexuel, il aurait pu très bien trouver une épouse et puis se marier et avoir les plaisirs que Dieu permet dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'en fait, tout lui appartenait, mais il a été essayé de chercher ailleurs une vie autre. Et le fils aîné, qui est resté, ben, c'était pareil. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, quand à la fin, il fait pas la fête et il veut pas participer à la fête et il dit, mais toi, tu fais jamais de fête pour moi, t'en fais une pour ce fils prodigue qui revient à mon frère, là. Et le père, il dit, mais tout appartient. Si t'avais eu envie de faire la fête, t'aurais pu le faire. Ben non, comme ça lui appartenait pas, il n'avait pas compris ça, eh ben, il travaillait pour essayer de justifier son existence, alors qu'en réalité, il était fils et héritier de tout. S'il travaillait, c'était pour lui, tout lui appartenait. Il n'était pas là sous le joug de son père en disant, j'espère que mon père va être content parce que demain il risque de me virer. Donc, il justifiait sa vie avec cette mentalité d'esclave. Et parfois, nous, on peut être aussi un peu comme ça dans notre religiosité. On essaye de faire des choses pour obtenir de Dieu quelque chose, alors qu'en réalité, tout nous appartient déjà. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Et donc, plus nous sommes conscients de notre héritage, moins on sera en but à rentrer dans un esprit de compétition, de justification, de culpabilité parfois aussi, d'insécurité, et on va plutôt vivre selon une manière digne de notre appel. Donc ces trois hommes appartenaient à cette église, mais il y avait quelque chose de plus large à bien comprendre. Alors, quand il parle à du monde, parce qu'encore une fois, il y a cette liste qui est très intéressante, qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit que le monde vous appartient? Eh bien, ça renvoie à ce que l'apôtre Jean révèle dans son évangile lorsque Jésus dit, en Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Donc, vous voyez, c'est toujours en Christ que les choses doivent se faire, où nous recevons tout. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, imaginons que nous soyons dans un pays, et ça peut arriver en France parfois, même si c'est pas encore pour l'instant une pression trop forte, mais ça peut arriver, mais il y a des pays où il y a les chrétiens qui sont persécutés. Comment être encouragé dans ces moments-là? Parce que le monde ne fait pas de cadeaux à certains chrétiens et dans certains endroits du monde. Mais l'espérance qu'ils ont, et les promesses aussi, et les informations qu'ils ont de la part du Seigneur, c'est « Nous aurons des tribulations dans le monde, soit, mais prenons courage, Jésus a vaincu le monde. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont s'arrêter. À un moment donné, la victoire va se manifester. La victoire issue de la croix, lorsque, à un moment donné, Jésus va taper du poing sur la table et va prendre possession de ce qui lui appartient, ben, la réalité de cette victoire sur le monde va se voir. Mais Jésus ne nous ment pas, vous savez, il n'a pas dit qu'il allait prendre possession de cette victoire tout de suite. Vous voyez, c'est un peu comme si, et d'ailleurs c'est tout l'enseignement d'Apocalypse ça, mais si vous avez un titre de propriété, vous êtes propriétaire, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que vous jouissez encore de la propriété. Pour ça, il faut que vous alliez à certains endroits et puis que vous soyez sur cette terre et puis, ou de cette maison, cette propriété, et vous en preniez possession. Jésus ne l'a pas encore fait. Pour l'instant, Jésus, avant d'avoir tous les droits sur ce monde, il utilise cette période, dans les prophéties, on appelle ça une année de grâce. C'est cette année de grâce que l'Éternel permet pour sauver encore des gens. Et nous qui sommes croyants, nous savons que la victoire finale, elle est pour les chrétiens. Jésus a vaincu le monde. Donc d'un côté, il y a des tribulations, on le reconnaît, et c'est pour ça qu'on ne sommes pas des chrétiens un peu, je dirais, barges presque, en disant, ben voilà, si tu as la foi, tu verras, tu auras la victoire en tout lieu et en toutes circonstances. Non, le monde est ce qu'il est. Tout comme la chair est ce qu'elle est, le monde est ce qu'il est. Donc il y a des situations pénibles, mais le monde est à nous, c'est-à-dire que nous avons hérité de cette victoire finale. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que on est fier de ça. Quand Paul dit « Celui qui se glorifie dans le Seigneur », c'est que oui, moi, je suis fier de savoir que Dieu va me donner un héritage dans l'éternité. Il va se passer quelque chose dans les cieux et la nouvelle terre. On va régner avec Christ. Il va y avoir une victoire sur le monde qui va s'expérimenter un jour, même si c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, les choses de cette existence, je dis pas que je dois pas les prendre en compte, parce que quand on traverse des tribulations, ou même quand on vit une vie, je dirais ordinaire, il y a des choses à faire. Glorifier Dieu, c'est aussi glorifier Dieu maintenant. Mais ce que je sais, c'est que j'ai peut-être pas réussi ma vie complètement. Ah, ce monde n'est pas parfait. Ah, il y a des difficultés. Ah, j'aurais pu faire autrement. Et pourquoi le monde va dans tel sens? Voilà, c'est pas réjouissant. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a vaincu le monde par Jésus-Christ et qu'un jour tout va être restauré. L'autre chose aussi que l'on voit, c'est que il nous a donné la vie. Hein, je rappelle le passage de 1 Corinthiens. Il dit, soit Paul, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Donc la vie est à nous. C'est-à-dire que en 2 Pierre chapitre 1 verset 3, rappelez-vous ce verset, Pierre écrit ceci, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu et la vertu de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu, nous ont appelés. Dieu est glorieux, il nous a appelés. Dieu est magnifique, il a des attributs parfaits, il nous a appelés. Et il nous a appelés comment? Au moyen de sa connaissance, il s'est révélé. Et cette connaissance fait que, par la puissance du Saint-Esprit en nous, nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux vivre. Mais quand je dis vivre, c'est dans le sens spirituel du terme, dans le sens où Dieu en parle, la vraie vie. La vie qui est liée à l'amour, la vie qui est liée à l'espérance, la vie qui est liée à la tempérance, la vie qui est liée à la maîtrise de soi, la vie qui est liée à la créativité, la vie qui est liée à cet esprit de sacrifice, la vie de Dieu en fait. Il nous a donné la vie éternelle et la vie est à nous, il nous l'a donnée. Et c'est cette vie que nous devons nous approprier. Et donc, une fois que je suis conscient de ça et du potentiel qu'il y a en moi, ça ne veut pas dire que j'expérimente toujours, mais il y a ce potentiel qui me permet de faire plein de choses, même au milieu des tribulations, qui me permet de vivre plein de choses, même au milieu des difficultés, même, je dirais, malgré ma chair. C'est que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Et pour ce faire, d'ailleurs, et là je fais un lien avec ce que Paul dit, c'est qu'il a pu donner des Apollos, des Paul et des Céphas pour amener cette connaissance de celui qui a appelé les Corinthiens par sa propre gloire et par sa vertu. Parce que Dieu, par Jésus-Christ, aimait les Corinthiens, il a envoyé ses serviteurs. Ils étaient pour eux ses serviteurs. Et ses serviteurs leur amenaient la connaissance de Christ. Et parce qu'ils ont reçu la connaissance de Christ, ils ont reçu la vie et la vie en abondance. Et là, ils en étaient à se chipoter de savoir que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Ils étaient en train de dire, mais attendez, d'abord ils sont à vous, hein, vous n'avez pas. Et deuxièmement, vous avez la vie qui est à vous. Dieu vous a donné la vie. Et il vous a pas donné, ça c'est un sous-entendu que je rajoute, cet esprit de dispute qui est complètement, futile par rapport à l'héritage qu'ils ont reçu. Autre chose aussi qu'ils ont reçu, la mort. La mort est aux chrétiens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu a vaincu la mort, et même si nous mourons aujourd'hui, cette mort n'aura pas de prise, in fine. Et d'ailleurs, c'est dans cette même épître, hein, je rappelle 1 Corinthiens 15, qui est le chapitre sur la résurrection, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue » Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. C'est 1 Corinthiens 15, 26. 1 Corinthiens 15, 26, il est écrit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est-à-dire que Dieu nous donne une assurance, c'est cette victoire sur la mort. Et ce qui fait, moi, en étudiant aujourd'hui, je me mettais à la place, je pensais à personne en particulier, heureusement d'ailleurs, mais je m'imaginais devant un cercueil. Et avec une tristesse, avec un sentiment de deuil, de solitude, de chagrin extrême. Et je me disais, si un jour ça doit m'arriver, je dois penser que Dieu a vaincu la mort. C'est-à-dire que la mort nous appartient aussi. Dieu a une victoire. Même si je vois quelqu'un dans un cercueil, je sais, alors si cette personne est croyante, que la mort nous appartient. C'est que Dieu a vaincu. Pour l'instant, la personne peut être morte pour moi, c'est-à-dire que j'ai plus de relation avec elle, elle est plus dans ce monde, mais je sais que Dieu a vaincu la mort. Et c'est pour ça que nous n'en avons pas peur, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que la mort que l'on peut comparer à une tribulation, si on souffre, si ça dure longtemps, ou si on va passer par ce moment-là. Néanmoins, nous avons la victoire parce que le dernier ennemi sera vaincu. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire tout ce que Dieu nous a donné. Et alors, il nous a donné des serviteurs doués dans la parole, Paul, Céphas, Apollos, mais après il rajoute « et ». Mais attendez, il vous a donné la vie et il vous a donné la mort. La mort vous appartient. La mort sera détruite. Et puis, encore une autre espérance, les choses à venir, elles sont à nous. Et ça renvoie, vous savez, dans Romains 8, 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Co-héritiers. Vous savez, quand moi, j'ai pas de frères et sœurs, mais je peux imaginer, quand des parents meurent, les frères et sœurs vont dans le dans le cabinet du notaire, et puis il y a le testament peut-être qui est ouvert, il y a le partage qui se fait, il y a les signatures qui se font, toute la famille est là. Et cette pensée, la co-héritier de Christ, j'imagine, on est devant Dieu le Père, et le Père a donné un héritage à l'épouse, à l'Église, dont Christ est la tête. Ça veut dire que Christ est avec nous, et nous avec Christ. On sera un jour devant le Père va distribuer des choses qu'il a prévues pour nous, et Christ sera là, et nous aussi. On sera avec lui, on est co-héritier avec Christ. Et alors évidemment, ça nous paraît évident que le Père puisse donner plein de choses au Fils, après ce qu'il a fait, mais nous, on a du mal à y croire, des fois. On a du mal à croire que nous possédons les mêmes choses que Jésus-Christ. Le Père va pas dire, bon, alors bien sûr, Jésus est le fils aîné, le premier d'une grande lignée, il a une autorité sur tout, et il est Dieu. Mais s'agissant du corps de Christ, et parce qu'en plus, nous avons un Dieu qui a son caractère, c'est-à-dire que c'est pas un despote, c'est pas un tortionnaire. Donc il sera le seigneur des seigneurs, mais en même temps, un vrai dirigeant, c'est celui qui fait partager sa gloire au peuple. C'est le but. Et d'ailleurs, quand on réfléchit un petit peu, s'agissant de l'autorité par exemple, l'autorité est là pour offrir sa vie aux autres. Les dirigeants d'un pays sont là pour servir le peuple. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'un bon dirigeant appartient au peuple. Le peuple doit respecter l'autorité du dirigeant, mais le dirigeant appartient au peuple dans le sens où il se donne pour le bien-être du peuple. Et nous sommes, nous, conscients que c'est exactement ce que Dieu fera au travers de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ va hériter d'une autorité plus importante que la nôtre, bien entendu, mais il va administrer son royaume pour que nous soyons bénis. Et c'est dans ce sens-là où nous sommes co-héritiers. Et donc, je trouve intéressant la façon dont Paul aborde les choses, parce que d'un côté, c'est un passage très pratique, c'est en gros arrêter de vous disputer, et puis en même temps, il nous emmène dans des sphères extraordinaires, comme quoi la théologie est importante dans la vie pratique. C'est-à-dire que quand nous goûtons aux promesses de Dieu et aux vérités divines, ça a un impact, ou ça doit en tout cas avoir un impact sur notre quotidien. C'est-à-dire que des fois on va se dire, mettons qu'il y ait une division dans l'Église, comme c'était le cas à Corinthe. Bon, on peut prendre des moyens très humains. Bon, on va faire un brainstorming. Quels sont les problèmes? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire une enquête. On va se réunir à la campagne. On va faire du footing ensemble pour essayer de restaurer l'unité. Voilà, on peut essayer de trouver tous les moyens humains qui parfois rentrent dans l'Église hein, pour essayer de guérir les choses. Et puis, on peut pas s'y prendre autrement et se dire, attendez. On va regarder un petit peu dans les hautes sphères, là. On va regarder à notre position. Parfois, c'est en regardant à ça qu'un couple peut être guéri de ces tensions journalières et quotidiennes. C'est-à-dire que nous sommes héritiers de quelque chose d'extraordinaire et on est en train des fois de se disputer parce que en plus, dans certaines situations, on est tellement dans une position d'insécurité qu'on essaye d'avoir de l'assurance et on essaye de se glorifier dans des choses qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'en réalité, on doit se glorifier dans le Seigneur. Et qu'est-ce que ça signifie que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur? C'est dans « sois fier de ce que Dieu te donne, sois fier de ton héritage, sois fier de ta position ». Par exemple, j'ai le droit de dire « moi, mon papa, c'est mon Père Céleste, moi, j'ai un grand frère, c'est Jésus-Christ, moi, je vais hériter de beaucoup de choses ». Ça, c'est correct, on a le droit de se glorifier. Et d'ailleurs, quand on le fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous louons Dieu en réalité. On loue Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. Et donc, on arrête d'aller voir ailleurs pour essayer de trouver les sources de la vie. Le fils prodigue, il a essayé de il a pris son héritage, mais sans la relation avec son père. Enfin, il a pris sa part d'héritage sans vouloir de relation avec son père. Alors qu'en réalité, il fallait qu'il ait l'héritage et une bonne relation avec son père. Ben, nous avons un héritage dont une partie est à venir, et nous avons une relation avec Dieu qui fait qu'on, pour le dire d'une manière assez simple, tout va bien. Il y a des tribulations, mais tout va bien. Il y a des difficultés, mais nous avons la victoire. Nous risquons de mourir, mais la mort nous appartient. Je suis pas mort, je suis en train de vivre, mais de quelle manière? Ben, je vis la vie de Christ. Dieu m'a donné sa vie, pas simplement à la croix, il m'a donné sa vie par le ministère du Saint-Esprit. Il m'a donné sa vie par la vertu et la connaissance de son nom, comme le dit l'apôtre Pierre. Il m'a donné tout ça, et ça, ça m'appartient. Et ça, j'en suis fier. Je suis fier de l'héritage que Dieu m'a donné. Et mon identité, ma valeur sont dans ces biens célestes que Dieu me propose. Et parce que nous avons tous reçu la même chose, eh bien, c'est pour ça qu'on se dispute plus. C'est pour ça qu'on commence à avoir une hauteur de vue. La jalousie peut s'en aller, les disputes, les discussions vaines et oisives, les problèmes d'ego peuvent disparaître parce que quelque part on a trouvé une sérénité dans l'action de Dieu, au travers de l'action de Dieu en notre faveur, excusez-moi. Et c'est ça que nous devons garder à l'esprit. C'est pour ça que si on relit le passage dans 1 Corinthiens, donc chapitre 1, versets 30 et 31, il est dit là, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption, afin, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. En fait, le fier met sa fierté dans le Seigneur parce qu'il est fier de ce que le Seigneur a fait pour lui. Et donc, il cherche plus à obtenir une fierté dans ce qu'il fait pour les autres, ou il cherche pas à forcément tirer une propre gloire parce que quelqu'un a fait quelque chose pour lui. Ah, je connais une personne importante. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de cette dénomination. Moi, je suis dans tel ministère. Moi, j'ai tel ou tel don. J'essaie de ne pas penser comme ça. Et celui qui, des fois, parce qu'il y a ceux qui sont fiers de ce qu'ils ont, puis il y a ceux qui se culpabilisent de ce qu'ils n'ont pas. En réalité, les deux ont tout reçu. Les deux ont tout reçu en Jésus-Christ, et les deux peuvent être fiers. Et on peut se regarder là, les yeux dans les yeux, en disant, hey, toi, t'as hérité, Ben, de la victoire sur la mort. Toi, Lily, t'as reçu la vie et tu l'as reçu en abondance. T'as tout ce qui contribue à la piété en toi. Toi, Christina, tu as reçu des enseignants qui sont pour toi, ils sont à ton service. T'as pas à être frustré de quoi que ce soit, d'être une femme et donc tu pourras pas être pasteur, etc. C'est pas grave. Eh ben, les hommes, ils sont pour toi, ils sont là pour t'enseigner. Bref, tout est à nous. Et vivons dans la paix du Seigneur avec ces vérités. Que Dieu vous bénisse.